Et si finalement la liberté la plus importante de l'entrepreneur n'était pas celle qui est la plus souvent citée? Je t'explique ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, mes champions et mes championnes, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie. Bienvenue dans Cheveux Blancs et Idées Longues, le podcast dans lequel nous parlons d'entrepreneuriat sur Internet, dans la création de contenu, même quand on n'a jamais fait ça, même quand on a 40 ans et plus, 50 ans, 60 ans, peut-être, je ne sais pas quel âge vous avez. Et que vous avez envie, en tout cas, de vous lancer dans ce domaine-là, ou en tout cas de progresser, hein, peut-être de changer de vie, peut-être de rajouter une corde à votre arc, peut-être de partager enfin quelque chose qui vous tient à cœur. Le but du jeu dans ce podcast, justement, c'est de vous aider, de parler de marketing, d'entrepreneuriat, d'organisation, d'état d'esprit, de tout ce qui va autour. Je l'ai connu, j'ai 47 ans, j'ai été salarié pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai eu plein de métiers. On m'a posé la question sur Instagram il y a encore quelques heures. Quand je liste tous les métiers que j'ai pu faire, il y en a un bon paquet. Et en fin de compte, j'ai mis très longtemps à trouver exactement ce que je voulais faire, comment je voulais le faire. Et j'ai découvert très tardivement la liberté que nous avions, justement, quand on entreprenait. Et c'est un peu l'objectif, un petit peu, de cet épisode, hein, aujourd'hui. C'est moins un carnet de bord d'habitude, parce que le carnet de bord, je fais le bilan, j'explique un peu les coulisses, les stratégies que je mets en place. Là, c'est plutôt, en fait, de revenir sur cette réflexion que j'ai eue sur la liberté. Parce que souvent, en fait, c'est, on met entreprendre égale liberté. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, lancez-vous dans le marketing, formez-vous, lancez une entreprise, etc. Et vous allez voir, vous allez avoir la liberté. Alors, souvent, la liberté qu'on donne quand on dit ça, en fait, souvent, on a une liberté d'organisation. Oui, je peux m'organiser comme je veux. Liberté de son temps. Je peux utiliser mon travail. Alors, c'est lié à l'organisation. Le temps, c'est dire, voilà, je vais pouvoir travailler à les heures que je veux. Si j'ai envie de travailler le week-end, je travaille le week-end. Si je travaille le matin, je travaille le matin. Le soir, si je veux pas travailler l'après-midi, je peux le faire. Et on va rajouter aussi une liberté dans son lieu de travail aussi. Dire que si j'ai envie de travailler depuis ma maison, je peux le faire. D'un bar, je peux le faire. De l'autre bout du monde, je peux le faire. Si je peux voyager en même temps, je le fais. J'ai une grande liberté dans l'organisation. On a aussi l'organisation autour des outils, des méthodes de travail. Voilà. Et puis, on a aussi la liberté de avec qui on veut travailler. Est-ce que je veux travailler tout seul? Est-ce que je veux travailler avec des collègues, avec des gens qui font la même chose que moi? Est-ce que je vais travailler dans un coworking avec des gens qui me ressemblent, etc.? Tout ça, c'est la liberté. Et puis, on pourra avoir aussi la liberté sur quoi on veut travailler. Et là, par contre, on vient toucher une liberté qui est plus intéressante. Et c'est la liberté, pour moi, d'être soi. Sur quoi on veut vraiment travailler et la liberté d'être soi, c'est-à-dire d'être aligné, finalement, avec ce qui nous fait vraiment vibrer. Voilà, ce qui nous fait vraiment vibrer, kiffer, etc. Alors, c'est vraiment cette dernière-là qui m'intéresse parce que souvent, en fait, on la découvre un peu tardivement. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est très facile, vraiment très facile, de vendre, en fait, quand on parle de tous ces sujets-là, de te vendre la liberté d'organisation, de temps, de dire que tu vas profiter plus de tes enfants, que tu vas pouvoir travailler quand tu veux, que si tu as envie de travailler que le matin, travailler que le matin, tu veux pouvoir coller à tes horaires, te lever peut-être enfin à 10h si tu as envie de dormir jusqu'à 10h et puis travailler jusqu'à 22h, 23h le soir, ou alors de travailler que le matin, de profiter des enfants l'après-midi. Tout ça, on va te le vendre. On va te vendre aussi le fait que tu n'es plus obligé d'aller au bureau, que tu peux travailler d'où tu veux, que tu peux voyager, etc. Tout ça, c'est facile à te vendre. Mais la liberté d'être soi, ça, c'est plus compliqué parce qu'en fait, on n'est pas habitué. Et on n'est d'autant pas habitué que dès qu'on est petit, en fait, on rentre dans un moule. Alors, j'ai lu l'autre jour une citation de Seth Godin qui dit que finalement, le seul moment où on est vraiment soi, c'est à la naissance, quand on pousse le premier cri, parce qu'en fait, on n'a même pas conscience qu'on attend quelque chose de nous avant le premier cri. Déjà, moi, je pense que quand on pousse son premier cri, on doit se rendre compte quand même que peut-être on attend quelque chose de nous. Ah, je pleure. Bon, sans blague, c'est une parenthèse. Je sais pas à quel moment on a conscience que finalement on est un être humain différent des autres, etc. Je sais que ça vient très tardivement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que très tôt dans la vie, on se rend compte en fait que on a déjà bien sûr des parents, qu'on a des frères et sœurs, qu'on a de la famille et que ces gens-là, en fait, ils attendent de nous un certain comportement. Et donc, de ce comportement va venir aussi des réactions. C'est comme ça qu'on crée en fait une forme de réaction. Je fais ça, comment réagissent mes parents et selon comment réagissent mes parents, comme je veux être aimé d'eux, comme je veux être aimé aussi de mes amis, de ma famille, de plein de gens, je vais réagir dans un sens qui me permet d'être accepté. Parce que l'être humain, rappelons un élément, c'est que l'être humain est un être qui est social par obligation, parce que sinon on se faisait bouffer, hein. C'est-à-dire que si on vivait pas en petite tribu, en organisation, bah en fait on se faisait bouffer par les plus costauds que nous. Tout a été fait finalement pour qu'on puisse le faire, y compris d'ailleurs le sommeil. C'est pour ça qu'il y a des gens qui dorment plutôt du matin, d'autres qui sont plutôt du soir, parce que bah comme ça, dans des tribus par exemple, ça permettait de dire bah ceux du matin ils veillent, ils peuvent aller travailler pendant que les autres se reposent, ceux qui sont du soir mais ils peuvent veiller sur le campement le soir pendant que ceux du matin se dorment, etc. Il y a des rotations, des moments de gestion comme ça. Tout a été construit dans la nature en fait pour que on arrive à vivre comme ça, et nous avons des capacités de socialisation qui sont énormes. Et en fait, le plus grand problème que nous avons, hein, le plus grand problème que nous avons, c'est le fait, la peur d'être rejeté. Alors, il y a un rejet global en fait, hein, c'est la peur du rejet. Et ce rejet global en fait, c'est d'être rejeté de la société. Alors, ça peut être de notre famille, de la société, et ça peut être aussi de notre travail. Mais quand on est jeune, ça peut être ma fille déjà à l'école, elle est en maternelle, elle a déjà ce phénomène-là de se dire, bah tiens, je peux être rejeté par mes copines, elle m'aime pas, elle dit ça, j'aime pas. Si je fais pas ça, est-ce qu'elle va bien continuer à m'aimer? Elle a 5 ans et demi. 5 ans et demi, hein. Bon, elle est à la crèche, elle est allée à la crèche, elle a fait la maternelle. Donc, on va dire, ça fait 3 ans de crèche, 3 ans de maternelle. Donc, ça fait la 6e année déjà de socialisation, etc., avec d'autres personnes, avec des groupes de plus en plus grands. Et on voit à quel point, déjà, elle se pose des questions de savoir, de dire, bah, tiens, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux faire ça? Et autres. Ça va continuer parce que, bon, l'école primaire, ça va être gentillé, mais ça commence à devenir un peu plus rude. Le collège, ça devient encore plus rude. Le lycée, ça devient encore plus rude. Que dire de ce qui va attendre encore potentiellement sur la vie étudiante et la vie salariée? Et moi, je l'ai trinqué dans la vie salariée, mais j'ai trinqué aussi au collège. Je me rappelle de certaines anecdotes où on pouvait se moquer de moi parce que je me mordais un doigt. Alors maintenant, je viens de me rendre compte que peut-être c'était une trace que j'avais, une certaine forme en fait, c'est certains mouvements que j'ai des mains, etc., pourraient peut-être venir d'une forme un petit peu de ce qui pourrait ressembler à du TDAH. Bon voilà, bon en tout cas moi je sais pas si c'est le cas ou pas, je vais creuser un peu, mais par curiosité, mais on s'est moqué de moi sur pas mal de choses de ce type-là, j'ai des souvenirs de ça. Et en fait, à chaque fois qu'on se moque de nous, eh ben on est rejeté en fait, on est dans le rejet. Et le truc que moi j'ai eu beaucoup de mal à vivre quand j'étais salarié, c'est d'arriver à être dans le moule du travail. Parce que quand on est dans salarié, en fait, il faut rentrer dans un moule, le moule du travail, de la vie salariale, etc. C'est quoi? C'est de se dire, bah, il y a un patron qui a fixé un cadre, il y a des chefs qui fixent un cadre, et moi, je dois rentrer dans ce moule-là. Et pour rentrer dans ce moule-là, eh ben, il faut que je masque certains aspects. Ou alors que je mette un certain masque aussi. Donc, je vais masquer des choses, hein, et mettre un masque sur d'autres choses. Et puis, adopter aussi la tenue réglementaire. Alors, tenue réglementaire, je veux dire quoi par là? Bah, c'est que il y a des entreprises où il y a vraiment une tenue réglementaire, genre la banque, faut porter un costume, une cravate, des choses comme ça. Ça peut être peut-être ça. Sénateur aussi, vous savez, il faut porter une cravate. Ça peut être dans d'autres milieux où il fallait être cool, cool, il fallait jouer au baby-foot, faut être en basket, en t-shirt ou je ne sais pas quoi. Et j'avais connu ça par exemple aussi quand je suis rentré en école de commerce. J'étais choqué le premier jour, enfin choqué gentiment. Il y avait un gars qui était là, je me rappelle même pas son prénom, et qui est arrivé le premier jour en costume avec une cravate Mickey. Il a fait prépa et tout, et il y a quelqu'un qui est venu le voir qui dit « Tu sais que maintenant que t'es étudiant, là, costume-cravate, ça va pas le faire, hein, de venir en cours comme ça, faut que t'adoptes un petit peu le look étudiant, quoi. » Donc il a dit « Viens plutôt basket, t-shirt, etc. » Ben voilà. Donc dès qu'il y en a un qui devenait un peu sapé, j'ai envie de dire, il était un peu vu de côté. Et c'était valable encore plus, je pense, chez les femmes, chez les filles et tout. Mais déjà chez les gars, ça, il y avait déjà un petit peu ce truc-là. Et il y avait aussi l'acceptation, hein, dans certains codes qui étaient « Il faut faire la fête, il faut boire de l'alcool, il faut participer aux soirées étudiantes, il faut être dans des associations, il faut faire ça, etc. » Quand on n'est pas dans ce moule-là, eh ben on se sent exclu et on en sort. Et il faut le dire ce qui est, c'est que dans le monde du travail, si on rentre pas dans le moule, si on rentre pas dans ce cadre, eh ben on devient problématique. On devient problématique. Alors soit on peut être mis dans un placard, soit on peut être un peu harcelé comme moi je l'ai été, parce que ben voilà, dans les réunions, ben on ose dire des fois des choses. Moi j'ai eu, quand je travaillais dans une agence web, mon patron, quand le dernier jour où je suis parti, m'a dit: les réunions avec vous, c'est toujours très intéressant, Bertrand, mais qu'est-ce que c'était dur quand même et tout, il y avait d'argumenter, etc. Il y avait toujours un truc. Et je me suis rendu compte après, quand je suis passé en collectivité, que ça, par exemple, j'avais un chef qui, lui, a usé d'autorité pour dire « on s'en fout totalement de ton truc » et quand ça l'a gavé, bah, il a essayé de débrouiller pour faire pression sur moi. Et donc, c'est pour ça que j'en étais venu à un moment à dire, et que je le pense toujours, que je suis potentiellement inadapté à un monde de l'entreprise, en tout cas au monde de l'entreprise tel que moi je l'ai connu. mais que les qualités qui font que je suis inadapté à ce monde de l'entreprise sont des qualités qui font aussi que je suis adapté, peut-être, en tout cas, je le pense, au monde de l'entrepreneuriat. Et si tu es dans ce domaine-là, bah là, tu vois, ça commence à toucher quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que tu es plongé dans le monde de l'entrepreneuriat, du salariat, je veux dire, tu as un problème qui est majeur, c'est de se dire, j'ai l'impression que je n'arrive pas à travailler, à vivre, à être comme il faudrait que je sois pour être dans la culture de l'entreprise, dans le mode de fonctionnement de l'entreprise. J'avais vécu aussi dans un total décalage à une époque quand j'ai eu une mission chez Michelin. J'avais pas envie d'y aller. Franchement, j'étais salarié en agence web, petite agence web, on est 6-7, on a un baby-foot, on s'amuse bien, etc. Et on m'envoie travailler pendant 6 mois chez Michelin. Bon, j'ai pas fait 6 mois chez Michelin parce qu'au bout de 2 mois, j'ai démissionné. Je suis parti justement travailler en collectivité locale. Je peux pas dire que c'était un bon calcul hein, sur long terme. Mais en fait, de rentrer dans une grosse société comme ça, avec des bureaux qui étaient ternes, etc., enfin un monde de l'entreprise, où il y avait vraiment des choses qui étaient très intéressantes, mais le monde de l'entreprise, tel que c'était fait, tel que ça vivait, etc., me correspondait pas du tout. Et pour rentrer dedans, là encore, fallait avoir le masque, le bon vêtement, j'ai envie de dire, mais global, hein, c'est pas un vêtement que les vêtements, parce que là, il y avait pas trop de vêtements, mais c'était vraiment de dire, il y a le moule, il faut rentrer dans ce cadre-là, dans cette culture-là, etc. Et ben, des fois, cette culture-là, on a du mal à y rentrer dedans. Si on a un petit peu un caractère un peu indépendant, un petit peu d'être, j'allais dire contestataire, mais c'est pas vraiment contestataire pour oublier de contester, c'est le fait de dire, j'aime bien comprendre pourquoi on me dit de faire ça, j'aime bien pouvoir discuter, j'aime bien trouver une autre solution, je pense qu'on peut faire d'autres choses, etc. Et qu'on a que ça rentre pas trop dans le cadre, qu'il faut suivre un petit peu la règle, et ben, c'est un petit peu compliqué. J'ai envie de dire, il y a des gens, des managers qui aimeraient bien qu'une entreprise, ça ressemble un petit peu à l'armée, je te donne un ordre et tais-toi, enfin voilà. Mais il y a des familles qui fonctionnent comme ça, il y a des clubs qui fonctionnent comme ça, il y a tout un tas de choses qui fonctionnent comme ça. Il y a des gens qui adorent ce fonctionnement-là. Si toi, tu n'aimes pas ce fonctionnement-là, peut-être tu te sens trop à l'étroit, et c'est là où la liberté de devenir entrepreneur devient intéressante. Parce qu'en fait, tu peux faire exploser ce truc-là, c'est-à-dire totalement le faire exploser. Et te dire qu'en fait, être indépendant, c'est de devenir toi, ou en tout cas de pouvoir travailler en étant vraiment toi. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler toujours en ayant un masque, en disant de 9h à 15h ou à 17h, enfin 15h non pardon, 9h, 17h, je travaille dans telle manière, je dois rentrer dans le cadre, tac, 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 je suis dans ce cadre-là. Et puis tout le reste du temps, je suis avec tel que je suis réellement. Si t'en as marre d'être comme ça, et si tu trouves qu'en fait le toi entre 9h et 17h, il est vraiment tristouille, il est vraiment ennuyeux, terne, etc., et ça représente quand même le plus gros de ta journée. Hein. Le 9h-17h représente quand même le plus gros de ta journée parce que si tu fais 7-8 heures de sommeil, tu fais 8 heures de travail, tu fais des déplacements, tu te rends compte quand même que le temps où tu as le masque est quand même le plus important. Surtout que tu peux avoir le masque aussi dans les transports, pas montrer que tu es trop joyeux le matin ou pas montrer ça, ou tout le monde fait la gueule autour de toi, donc tu as du mal à ne pas faire la gueule autour de toi, ce qui peut être... un cas, hein. Moi je l'ai vu quand je travaillais à Paris où j'ai l'impression que j'avais des zombies et tout, et puis j'ai devenu moi-même un zombie. Enfin voilà, on a plein de choses comme ça. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que être indépendant, c'est aussi la possibilité de devenir vraiment toi, ou en tout cas de montrer le vraiment toi, ou en tout cas d'être toujours toi. C'est-à-dire, t'es vraiment toi, et de découvrir même quel est le vrai toi. Et là, c'est un truc un peu plus loin. C'est-à-dire que moi, l'entrepreneur que j'étais quand j'ai commencé et l'entrepreneur que je suis maintenant, c'est pas vraiment le même. Pourquoi? Parce que j'ai appris des choses, parce que j'ai pris des baffes plein la gueule, parce que oui, j'ai fait des échecs, je me suis planté sur des trucs, il y a des trucs je pensais que ça allait marcher, ça a pas marché, il y a des mois qui ont été galères, il y a des moments où ça m'énerve, il y a des clients qui m'ont énervé, des manières de travailler qui m'ont énervé, j'ai appris que je voulais pas travailler dans certains domaines, que je voulais plus être, par exemple, à un moment, je m'éclatais à faire des cours et puis j'en ai eu marre, je m'éclatais à faire des formations puis j'en ai eu marre, à un moment donné, je voulais être freelance et puis en fait, j'en avais marre de travailler avec certains clients, je voulais, quand j'ai quitté le salariat, j'ai dit, j'en ai marre de travailler avec des collègues que je peux pas choisir, j'ai envie de travailler avec des clients que je peux choisir, j'ai envie de travailler avec des gens qui sont pas cons, etc. Et puis je me suis quand même retrouvé avec des clients qui, par la force des choses, étaient quand même un petit peu cons sur les bords, quand même, faut le dire, sur des choses. Je peux le dire certains, hein, je dirais pas les noms, et on s'en fout. Il y a pas mon portfolio sur mon site, ça reste entre nous, mais j'en ai certains qui m'ont laissé des ardoises. Chaque année, en général, j'en avais un qui me laissait une ardoise, qui payait pas un truc, etc., qui faisait la sourde oreille. J'en ai même une qui a pas payé, qui a fini par faire faillite, donc je me retrouve avec une ardoise. Alors une fois 1 000 euros, une autre fois 1 200. Cette année, j'en ai 400 aussi, là, qui traînent un petit peu, ou 400 ou 500 qui traînent un petit peu dans un coin, là, et tout. Voilà, c'est des choses qui arrivent sur. Alors une fois c'est un bout de site internet, une autre fois c'est un truc qui marche pas comme ils veulent, parce que la communication, bah oui, on fait la communication sur les réseaux sociaux, bah ça marche pas à coup sûr. Hein. Des fois les posts ils ont du succès, des fois ils ont pas de succès et tout. Bah voilà, ça peut arriver. Donc ça c'était une année, c'est arrivé comme ça. Une autre année c'est site internet. Ben on fait un truc et puis d'un coup tout change et puis bon voilà et la cliente eh ben elle avait une boutique et puis elle met la clé sous la porte avec sa boutique, mais forcément c'était un petit peu de notre faute hein. Un petit peu ma faute en tout cas, parce que le site il n'était pas comme elle voulait elle exactement. Moi mes 20 années d'expérience sur internet par rapport à elle, son truc, elle voulait absolument faire un truc et je disais je suis pas sûr qu'on puisse faire exactement ça, on va essayer mais c'est un peu compliqué, vous pensez vraiment que ce site là tel le modèle, etc. Et donc finalement être freelance, des fois aussi, c'est de rentrer dans un espèce de masque où, par la force des choses ou par le besoin hein, de dire ben, je dois avoir de l'argent, je dois avoir des clients, ben, on rentre aussi dans un mode de fonctionnement qui, des fois, ne nous correspond pas. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit j'ai plus envie de voir d'un patron, et puis on se retrouve en fait en étant finalement entrepreneur mais salarié de son client un petit peu. C'est-à-dire que surtout quand on en a qu'un, là c'est le pire parce qu'en fait on dépend totalement de lui et donc on est obligé finalement de rentrer dans le masque un petit peu pour correspondre à ce qu'il fait lui. Et donc on n'est pas vraiment soi. Et donc c'est pour ça qu'en fait des fois c'est compliqué, vraiment compliqué, d'arriver à trouver l'activité qui va bien, celle sur laquelle on a envie vraiment de travailler, sur quoi on veut travailler, de la manière que l'on souhaite, sur les sujets qui nous plaisent, comme on veut. C'est-à-dire de cumuler toutes les libertés. C'est-à-dire que quand on est freelance, on peut avoir la liberté d'organisation, liberté du temps, liberté du lieu de travail. Ça, on peut l'avoir assez facilement. Liberté aussi de à qui on veut travailler, ça dépend si on arrive à avoir les clients, etc. Mais la liberté de sur quoi on veut vraiment travailler, de comment on le souhaite, le ton qu'on veut utiliser, la manière d'être, etc. Des fois, c'est pas si facile que ça. Et finalement, c'est là où je trouve que moi, la création de contenu nous redonne en fait cette liberté-là. Et pourquoi ça nous redonne cette liberté-là ? Parce que quand on crée du contenu pour nous-mêmes, hein, alors je dis pas pour des clients, on fait du contenu pour des clients, mais quand on fait du contenu pour nous-mêmes, en fait, il y a un moment donné, il faut tout poser sur la table un petit peu. Alors, je ne vais pas employer de mots parce que ça éviterait de se faire bannir de certaines plateformes, mais il faut tout poser sur la table. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, il faut poser son cerveau, il faut poser son cœur, il faut poser ses bips, et puis il faut poser ses bips, et puis ça dépend si vous êtes des garçons ou des filles hein, qui écoutent l'épisode, mais en tout cas, vous avez compris, il faut tout poser, quoi, tout poser. Il faut se mettre à poil un peu sur des choses, etc. Il faut lâcher un peu les trucs en disant, bah voilà, moi je pense ça, j'ose penser ça, je vois les choses de cette manière-là et tout. Oser, quoi, c'est-à-dire d'enlever le masque dans lequel on nous attend systématiquement. Si je reviens par exemple sur cette semaine-là, l'autre jour, on m'a fait une remarque, on m'a dit, tu sais Bertrand, l'autre jour dans ton podcast Kilomètre 42, t'as parlé de tel sujet et tout. Je dis oui. Et alors, tu crois que tu vas en reparler ? Oui, je pense. Pourquoi ? Ça pose un problème ? Eh ben, tu sais quand même, il y a des personnes qui nous ont dit que c'était pas terrible que tu parles de ça, que tu devrais dire ça, que... Puis, est-ce que t'es bien diplômé pour parler de ça ? Et puis, qui t'es pour parler de ça ? Et puis, t'as des diplômes pour parler de ça ? Et à un moment donné, je dis j'ai de l'expérience, je suis certifié dans ce domaine-là. Oui, j'ai pas le diplôme universitaire qui va avec, mais j'ai une certification, j'ai suivi des centaines d'heures de formation dessus. J'ai l'expérience, j'ai lu, j'ai eu plein de d'interviews, j'ai eu plein de gens, de l'expérience et j'ai discuté avec plein de gens, vu plein de bouquins qui me permettent quand même de dire que peut-être, oui, peut-être certaines choses que disent un certain corps de métier, eh ben on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec eux. Et là, en fait, en faisant ça, j'affirme en fait que finalement, je vais à l'encontre de ce que les autres pensent peut-être dans un corps de métier. Donc, en fait, je ne rentre pas dans le masque de ce que eux ils pensent, hein, voilà, et en disant si je suis dans ce métier-là, je dois faire ça de cette manière-là et tout, mais en disant peut-être qu'on a une autre voie à suivre, ou en tout cas qu'on peut suivre d'autres parties de réflexion et que on peut trouver aussi d'autres moyens de faire les choses. Alors, dans la course à pied, dans la nutrition. Là, je vous ai donné plutôt un exemple nutrition, voilà, je peux le dire. J'ai aussi des exemples de course à pied en me disant « Attends, ce truc-là que t'as dit, t'es sûr de ton truc ?» Et je dis « Bah oui, je suis sûr de mon truc. » Par exemple, dans des méthodes d'entraînement, moi, il y a des méthodes d'entraînement où je trouve que c'est pas super efficace. Ou alors sur la pause annuelle, quand on court à pied et tout, je dis « Bah oui, je trouve qu'il y a des trucs, peut-être qu'on peut s'en passer. » Et on me dit « Ah, mais t'es fou, il faut absolument faire ça et tout. Attention, t'es fou, t'as pas le droit de dire ça. » Eh ben si, j'ai le droit de le dire en fait. J'ai le droit de le dire. Parce que c'est ça la liberté de l'entrepreneuriat et c'est ça la liberté du créateur de contenu. C'est-à-dire de dire que Ben, avec ton expérience, avec ce que tu sais, avec ce que tu as lu, ce que tu as appris, ce que tu as pu discuter avec des gens, ce que tu as pu tester par toi-même, ce que tu as pu tester avec des clients potentiels, avec des gens que tu accompagnes, eh ben, tu peux te rendre compte, tu peux dire que non, tu as d'autres manières de faire. Et que tu n'es pas obligé de rentrer dans ce masque que tous les autres, ils ont. Voilà, tu n'es pas obligé parce que c'est sûr que, par exemple, tu exerces ton métier en étant salarié d'une entreprise. Là, l'entreprise va dire, bon, ton métier, il faut le faire de telle manière, telle manière, telle manière, telle manière. Tu dois être habillé de telle manière, travailler de telle heure, parler de ça, parler comme ça, utiliser tel mot, etc. Mais tu peux faire le même métier que ce que tu fais là maintenant en disant, je peux faire le même métier, mais d'une manière différente, même presque, alors je dis pas être concurrent de l'entreprise dans laquelle tu es, parce que peut-être tu peux pas le faire, mais en tout cas, tu peux exercer une partie du métier, être dans le même domaine, dans un domaine qui est proche et tout, en l'exerçant d'une manière totalement différente. Et en fait, pas pour le plaisir de le faire d'une manière différente, mais pour le plaisir de le faire de la manière que toi, tu penses que tu dois le faire. Et si tu vas arriver à le justifier, tu vas arriver à l'expliquer, ce truc-là. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire de dire, ben moi, avec mon expérience, avec ce que je sais, avec ce que j'ai fait et tout, oui, tout le monde a l'habitude de dire ça, mais moi, je pense qu'on pourrait faire aussi différemment. Et je vais te prouver que ça peut marcher. Je vais te le montrer, déjà sur mon cas, et puis ensuite, avec des clients, on va me montrer, je vais te montrer que ça peut marcher. Quand tu es créateur de contenu, coach, entrepreneur, etc., enfin, infopreneur, que tu vends des formations, des programmes, que tu fais du coaching, que tu crées du contenu, la première chose, déjà, c'est de montrer que toi, tu fais des choses et que ça marche pour toi de telle ou telle manière, que tu l'as appliqué sur des gens que tu accompagnes en coaching ou en formation, que ça marche pour certaines personnes de telle ou telle manière, et donc oui, ça peut marcher pour plus de personnes. J'ai tout un tas d'exemples, et on pourrait parler, alors je ne vais pas reparler sur des exemples précis de sport, mais par exemple, tout le monde va ériger en disant il faut absolument faire ça, ça, ça et ça, et puis on a un gars qui arrive et dit « Oui, mais moi, je fais autrement, et vous avez vu ce que je fais ?» Et là, on dit « Ah non, c'est pas possible, c'est pas vrai, et tout, c'est un coup de bol. » C'est un coup de bol. Pourquoi ce que lui fait sera un coup de bol et pourquoi ce que les autres font ne serait pas plus un coup de bol? Par exemple, il y a des études, alors après, voilà, on va chercher des études scientifiques. Alors ceux qui sont pour une version A vont chercher des études scientifiques qui leur vont bien. Ceux qui font la version B vont chercher des études scientifiques qui leur vont bien. Certaines fois, on trouve pas l'étude scientifique. Mais en attendant, le savoir se crée aussi comme ça. Et c'est toujours ceux qui ont des méthodes qui sont un petit peu contraires, un petit peu contrariantes, j'ai envie de dire, pour la globalité des gens, qui parfois s'impose aussi, qui arrive à montrer en disant, bah, attendez, on fait ça, tout le monde fait ça, et pourtant ce truc-là, il marche pas forcément. Je donne un exemple. Par exemple, on pourrait dire tout ce qu'on veut sur les diététiciens nutritionnistes, je n'ai rien contre eux, mais il y a quand même un problème dans ce pays, et dans le monde entier, c'est que l'obésité devient de plus en plus importante, la sédentarité devient de plus en plus importante, j'en étais victime, j'étais obèse à l'époque, donc je sais bien. Donc ce qui veut dire quand même que dans ce pays, on a beau avoir des diététiciens nutritionnistes, des gens qui sont formés, hein, qui font des diplômes universitaires, qui sont formés. On a un ministre de la Santé, on a un ministre de Sport, on a des programmes, on a tout un tas de choses. Il y a tout un tas de choses qui existent, et pourtant, la population grossit. Bon, après, il y a des sociétés, Weight Watchers, des compagnies comme J'aime, tout ce qu'on veut, qui se sont mis sur le truc. Il y a eu des centaines de bouquins, des milliers de bouquins qui sont écrits sur comment perdre du poids, et pourtant, tout le monde continue à grossir. C'est bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui marche pas. C'est un truc qui cloche. Ça marche pas comme on veut. C'est-à-dire que pour une majorité de personnes, il y a des choses peut-être qui marchent pour quelques personnes, d'autres choses qui marchent pour d'autres personnes, mais que, en fait, à un moment donné, c'est pas parce qu'il y a un gars qui a dit il faut faire ça, ça et ça, que des études ont montré qu'il y avait ça, ça et ça qui fonctionnait, qu'on n'a pas le droit de penser qu'il y a d'autres choses qui pourraient fonctionner et qu'on n'a pas le droit d'essayer de le faire. Et c'est là où, en fait, je pense que on a tous notre rôle à jouer. C'est-à-dire qu'on a tous notre rôle à jouer dans ce domaine-là en disant, ben, avec ce que je sais, avec mon expérience, avec ce que j'ai vu, avec ce que la passion, avec ce que j'ai essayé pour moi et autres, je me suis rendu compte quand même que telle ou telle méthode qu'on m'a dit qu'il fallait absolument suivre, elle marchait peut-être pas aussi bien, ou peut-être qu'elle était un peu plus lente, ou peut-être ça, mais qu'en l'adaptant, ou en faisant différemment, ou en faisant peut-être le contraire de ce qu'on me disait de faire, eh ben, j'ai obtenu aussi des résultats. Et ceux qui me disent, oui, mais scientifiques disent, je leur dis, oui, mais en général, il y a plein de chercheurs qui ont trouvé un truc, en fait, en partant à l'inverse, et du moment qu'ils ont voulu essayer de prouver quelque chose, en fait, ils ont une intuition qu'on pouvait faire différemment, ils ont eu, en fait, la capacité de trouver une autre méthode pour le faire. Et j'ai un exemple, même dans ma famille, ma nièce qui a trouvé une méthode où elle faisait dans un stage, et on lui dit, il faut faire ça, ça et ça, et puis qu'ils n'arrivent pas à le faire, et dit, bah, si on pouvait faire de telle ou autre manière, ils se sont dit, ah oui, c'est vrai qu'on pourrait faire ça, ça pourrait marcher. Bon, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, même elle, qui est une stagiaire, qui a des gens qui sont plus, qui ont plus d'expérience, qui ont fait plus d'études qu'elle et tout, avait appliqué des solutions parce que c'était la solution que tout le monde leur disait, que la solution typique c'était ça, et qu'elle, avec son regard différent, eh ben, elle pouvait apporter une autre solution, et que cette autre solution peut marcher aussi, à condition de la tester. Et c'est là, en fait, où ça devient très intéressant. C'est-à-dire que si tu es dans un domaine que tu connais bien, mais que tu te rends compte que les méthodes ne marchent pas forcément toujours très bien, tu peux très bien te dire, ben, moi j'ai le droit de proposer une autre méthode. Et même si c'est un domaine qui n'est pas ton métier de base, mais un domaine qui te passionne vraiment, où tu as envie d'aller, eh ben, tu peux le faire, tu peux le dire. Alors, peut-être que il y a des gens qui vont dire, non mais attends, t'as pas le droit de dire ça, non c'est faux, et tu sais, il y a les chercheurs et tout, ils font ça et tout. Bon, aujourd'hui j'ai fait, j'ai fait un réel sur les glucides, sur mon compte Instagram, rappelant quand même une évidence, et je me suis pris bien sûr un petit commentaire négatif là-dessus, mais rappelant une évidence, c'est que on a découvert le rôle des glucides dans l'alimentation, hein, les glucides, c'est-à-dire les sucres, dans l'alimentation autour de 1900. Les gels pour faire du sport, pour courir et tout, vous savez qu'ils sont des doses de sucre, ont été inventés peut-être dans les années 80-90, donc très longtemps après. Pour autant, à l'échelle de l'humanité, ça veut dire que pendant des milliers d'années, même des millions d'années, l'Homo sapiens a fait sans ce sucre ajouté. Il l'a fait sans ça, sans la connaissance même de ça. Quelle main il a fait, comment il a géré ça et tout. Il restait pas assis dans un canapé, ça n'existait pas. Il était obligé d'aller chasser, il était obligé de marcher. Il pouvait marcher 60 bornes dans une journée pour aller chasser, marcher et tout. Recommencer ça tous les jours. Peut-être qu'il courait peut-être pas le 100 mètres aussi rapidement. Et encore que, on sait pas parce qu'on n'a pas les chiffres. Mais en tout cas, il était vivant. Il a réussi à survivre. Il a réussi à faire plein de choses. À courir, à se déplacer, à migrer. Des choses qu'on ne sait pas. Et donc, l'évidence, c'est de rappeler, de dire, bah, peut-être qu'à une époque, en fait, l'homme faisait différemment. Peut-être qu'il faisait différemment, et peut-être que ce que maintenant on érige étant comme étant une vérité maintenant sur un truc de temps qu'on ne connaît, qu'on étudie depuis une centaine d'années, et sur des produits qu'on a commencé à mettre en place qu'il y a quelques années, il y a même une marque, elle n'a même pas 10 ans, hein, elle deviendrait la grande référence, elle n'a même pas 10 ans. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a qu'eux qui ont la grande parole divine et qu'on ne peut pas aller dire peut-être qu'il y a d'autres moyens de le faire? Voilà. Et bien sûr, ça va chafouiner un petit peu ceux qui pensent que non, il y a des études qui ont été faites, il y a ça, ça et tout. Je vais te rappeler un élément qui est super important, qu'on m'avait expliqué un jour. On m'a dit, tu sais, quelqu'un apprend quelque chose et applique quelque chose en fonction de ce qu'il a appris. Et ensuite, quand il l'enseigne à quelqu'un d'autre, il va enseigner ce que lui-même a appris. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il y a une réplication du savoir. Donc, pour t'expliquer, si par exemple, tu prends dans n'importe quel métier, on va dire la comptabilité, tu prends un comptable maintenant, il a appris la comptabilité par rapport à ce que un comptable, son prof de comptabilité lui a appris. Donc lui, il a appliqué la comptabilité par rapport à ça et par rapport, bien sûr, aux lois, etc. Bon, là, le plan comptable, etc. Mais peut-être qu'il y a des outils en comptabilité, des manières calculées ou je ne sais pas quoi, qui sont un peu différents. Je ne sais pas si ça marche, mais disons la comptabilité. Si lui-même, un jour, doit l'enseigner, il va l'enseigner tel que lui, il l'a apprise et tel que lui, il l'a appliqué. Forcément, parce qu'il a appris ça, il a appliqué ça. Donc, il va le faire de cette manière-là. Donc, il y a une réplication de ce savoir-là, en fait. Et ce savoir-là, à force de le répliquer d'année en année, de génération de formateurs en génération de formateurs et de gens qui l'appliquent, devient, en fait, un petit peu la bible du truc, en disant, c'est comme ça que ça marche. Ce qui ne veut pas dire que ça n'évolue pas. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a toujours des petits marioles qui arrivent en regardant, en disant, oui, mais alors, si on faisait un petit peu ça, là, en comptabilité, si on modifiait ce truc-là, si on faisait ça, si on faisait une petite holding pour faire ça et tout, est-ce qu'on pourrait pas faire ça? Et c'est là où, tout d'un coup, on arrive ensuite sur des techniques où des gens arrivent avec des nouvelles idées. Et on a toujours eu des nouvelles idées, hein, des gens qui ont fait des trucs dans l'investissement différemment, des gens qui ont, dans l'immobilier, il y a des gens qui investissaient, qui faisaient ça, ça et ça et ça. Puis un jour, il y a un mec qui dit, bah, moi, je vais acheter des parkings. Et maintenant, il y a encore des bouquins, et Christian Clavier, quand il a commencé à acheter des parkings, c'était il y a quoi, 30 ou 40 ans, et il y a des bouquins encore qui sortent maintenant de gens qui disent, bah, investissez dans les parkings, hein. Donc, comme quoi, à un moment donné, cette méthode-là d'investir dans des parkings n'était pas connue, parce que les parkings, il n'y avait pas ce problème-là et tout, petit à petit, c'est venu. Mais en fait, je veux dire qu'il y a un moment donné, il y a un gars qui vient faire de la disruption, en fait. Et ce gars qui fait de la disruption, ou cette fille, ça peut être toi, en fait. C'est-à-dire que ça peut être toi. Tu as le droit de le faire. Le truc, en fait, c'est que tu dois oser le faire et tu dois savoir, en fait, de quoi tu dois vraiment parler. Et là, maintenant, on arrive à un élément qui est important. C'est finalement de dire que si tu veux profiter de cette liberté, il faut que tu t'autorises, en fait, à pouvoir parler des sujets dont tu as envie de parler en te disant que tu peux en parler avec la manière dont tu veux en parler. Même si ça ne se fait pas, même si les autres gens ne le font pas, et qu'en fait, il faut pas le faire non pas parce que c'est un positionnement particulier, parce que si tu veux faire un positionnement particulier, généralement tu vas trouver un positionnement qui est tellement particulier que peut-être que personne n'a besoin de ce positionnement-là. Et si tu fais un positionnement qui vient de l'extérieur en analysant, en disant « Ah non, je pourrais faire ça et tout », mais que tu fais que le penser, tu ne sauras jamais si ça fonctionne. Donc, au départ, en fait, ce que tu dois faire, c'est explorer les thématiques, explorer les possibilités, explorer les sujets, explorer la manière dont tu peux le faire, combiner un petit peu les choses. Et en fait, c'est pas dans un souci de trouver ce qui va créer de l'audience, ce qui va créer du trafic, ce qui va faire discuter les gens. C'est pour trouver, en fait, le thème et la manière d'aborder le thème et qui te fait vraiment vibrer, et la manière dont qui toi te permet en fait de partager ton énergie, de partager ce que tu as envie de partager. Et ça va pas se faire du premier coup en fait. Ça va vraiment pas se faire du premier coup. Je te reprends en fait l'image du tailleur de pierre. Tu sais un mec si tu trouves tu veux un diamant au départ, c'est un gros rocher avec un caillou au milieu. Bon, le caillou il brille, mais c'est pas un diamant, c'est un caillou qui doit être taillé pour faire les facettes du diamant, il y a plusieurs façons de tailler le diamant, etc. Donc tu prends un gros caillou, il y a un gars qui commence à taper sur le caillou, qui enlève la gangue autour des trucs, il trouve ce qui ressemble à un diamant, ensuite il extrait ce diamant, et ensuite il va vendre le diamant à quelqu'un qui lui va le tailler, ou le faire tailler par un tailleur de pierre pour faire le diamant final, hein, le diamant tel qu'il brille, il va être poli, etc. Bon, pour arriver à ça quand même, ça veut dire qu'il y a quand même un mec qui a tapé sur la caillou en se disant « ici il devrait pouvoir y avoir quelque chose à gratter », donc il a commencé à gratter, et puis il a affiné. Et si la même personne était à la fois le gars qui tape sur le caillou, le gars qui trouve le diamant, le gars qui taille ensuite le diamant pour en faire le diamant final, eh ben tu pourrais dire qu'en fait, tu peux jouer tous ces rôles-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas dire « bon, dans ce domaine-là, j'aimerais bien en parler, mais comment je vais en parler ?» Et là, tu commences à affiner. Mais de quoi je peux parler? Comment je vais le faire? Quel est l'angle précis pour qu'il corresponde vraiment aux besoins de ma cible, mais aussi à la manière dont moi j'ai envie d'en parler, de ce que je veux apporter, de ce que je sais, de comment je le sais. Et peut-être qu'en fait, il y a peut-être des moments, des choses comme ça, où tu penses que tu peux parler de certains sujets, tu vas te rendre compte que ça t'intéresse pas vraiment, ou que tu peux pas vraiment le faire comme tu veux, ou que t'as peut-être pas les arguments pour le faire, ou peut-être que finalement, bah, tu répliques juste ce que t'as vu à droite à gauche. Et peut-être que dans d'autres domaines, tu peux le faire. Peut-être que dans d'autres domaines, tu te rends compte que tu peux en parler différemment, ou que sur un point précis, tu peux parler de ça et ça t'anime beaucoup plus. Je sais pas, moi, tu vois, je reviens sur l'exemple de la course à pied, mais la course à pied, c'est un domaine, il y a tellement de manières de courir qu'on pourrait parler de course à pied de plein de manières. Tu peux t'adresser à des sportifs, tu peux t'adresser à des gens qui courent pas du tout, tu peux t'adresser à des gens qui courent un peu, des gens qui sont des femmes, des hommes, des femmes qui reviennent de grossesse, des femmes qui attendent des enfants, tu vois, tu peux avoir plein de trucs. Mais moi, par exemple, j'ai fait un épisode le jour et cette semaine sur le postpartum, mais je n'ai pas envie de passer ma journée à expliquer à des femmes comment reprendre la course après une grossesse. Déjà parce qu'en fait, je me sens pas très concerné par cette histoire-là. Non pas que ça m'intéresse pas le sujet, mais parce que je suis pas une femme, je l'ai pas vécu. Je ne sais pas ce que c'est que de courir avec un gros ventre. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir un enfant qui vient de naître, d'avoir les tissus distendus, d'avoir un périnée rééduqué. Enfin, je ne sais pas ça. En fait, je connais l'existence de ça. Je ne l'ai pas vécu, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas ce truc-là. Donc, c'est pas parce qu'il y aurait un marché énorme, mais vraiment énormissime, c'est-à-dire que on estime qu'il y a 13 millions de personnes qui courent en France. Sur ces 13 millions de personnes, si on coupe en deux, on va dire qu'il y a 6 millions et demi de femmes, allez, 7 millions, que dans ces 7 millions, il y en a la moitié qui sont en âge d'avoir des enfants. Soit qui les ont eus, soit qui veulent en avoir. Hein, allez, on va faire un couple à part en deux. Peut-être, on pourrait peut-être estimer que cette histoire de comment je reprends la course à pied après avoir eu un enfant peut considérer 2 ou 3 millions de personnes en France. Ça paraît être un marché énorme, mais c'est pas pour autant que c'est un marché sur lequel je vais aller dessus en me disant « ouais, et tout, moi j'ai une solution, c'est génial, etc. » parce que je ne suis pas plus qualifié et que même si je faisais beaucoup de recherches, je me sentirais toujours un peu un imposteur dans cette histoire-là et que même si j'essayais de le faire, même si je faisais des recherches, ça m'intéresse pas plus que ça. Le sujet m'intéresse, je pense qu'il est très important, mais je pense que je ne suis pas la personne pour le faire. Mais ça, comment tu le sais en fait? Eh bien, tu le sais non pas en réfléchissant seulement, mais aussi en testant, tu vois, en t'intéressant au sujet, en creusant et tout. Alors bien sûr, là, je t'ai pris un exemple sur le postpartum. Soyons honnêtes, pour femmes et postpartum, je ne suis pas du tout bien placé, ne serait-ce parce que le cas que je t'ai donné. Mais j'aurais très bien pu te dire, bah tiens, sur la performance pour le truc courir de plus en plus vite. Bah là non plus, ça m'intéresse pas. Comment je sais? Parce que ça, je l'ai testé. En fait, ça, je l'ai testé. C'est-à-dire que j'ai testé de parler de ce que c'était de courir quand on est gros, de courir quand on veut reprendre, de courir après une blessure, de courir de telle manière. Parce que je l'ai testé dans mon vécu, parce que je l'ai testé au fur et à mesure. Et puis, j'ai voulu tester qu'est-ce que ça en fait de voir aller plus vers de la performance. Puis, je me suis rendu compte quand même qu'au bout d'un moment, il y a un truc, je me dis, ouais, mais parler que de performance par rapport à d'autres choses. Je sais pas si ça me plaît tant que ça, ou alors faut redéfinir la notion de performance, qui est la performance personnelle. Ah oui, alors cette performance-là, quand j'en parle de ça, ça me plaît. Mais quand je parle de cette performance-là qui concerne un certain niveau-là, ça me plaît plus. Comment je sais? Parce que je l'ai testé, parce que je l'ai essayé. Et en fait, je l'ai vécu, j'ai vécu des choses, j'en reparle, j'ai voulu faire des choses, j'ai testé, il y a des trucs qui me plaisent pas, il y a des trucs qui me plaisent, etc. Et c'est vers ça que je veux t'amener en fait. C'est-à-dire que quand tu veux te lancer, tu as une liberté qui est énormissime de faire ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux tomber tous les masques, en fait. Quand tu lances comme ça, on t'attend pas, tu vois, on t'attend pas. Personne ne t'attend, surtout si t'es pas dans ton métier de base. Même si t'es dans ton métier de base, tu vois, et que tu quittes son entreprise pour faire le même métier, mais en étant tout seul dans ton coin, par exemple, ben, qui c'est qui t'attend vraiment, tu vois, en disant, bah attends, t'étais dans une boîte qui avait peut-être pignon sur rue, tu pars dans une entreprise pour être indépendant, enfin, en auto-entreprise pour partir indépendant, et tu vas créer du contenu sur Internet, mais personne ne va s'abonner à ton compte au départ parce que personne ne te connaît, personne ne t'attend particulièrement, peut-être que tes anciens collègues vont te scruter, peut-être que ton ancien patron va regarder un petit peu d'un œil ce que tu fais, mais ça représente quelques personnes, toi, tu as décidé de te lancer. Tu n'es pas tenu par une habitude de ce que tu fais depuis des années. Tu n'as pas les biais aussi d'avoir fait plein de choses et te dire « je peux pas perdre ça » parce que tu sais, c'est l'aversion à la perte. T'as pas ce truc-là de dire « oui, j'ai fait 700 épisodes de podcast, si j'arrête le podcast maintenant, je perds tout le travail que j'ai fait ». Ça serait plutôt mon cas, tu vois. Ça, tu l'as pas. Donc, tu as une liberté énorme. Tu as une liberté de dire « personne ne m'attend, personne ne me connaît, je me décide de me lancer, je pars d'une feuille blanche, je peux faire ce que je veux ». J'ai pas d'habitude, j'ai pas du passif dans le contenu, j'ai pas fait ça, ou alors j'en ai très peu, donc tu t'accordes cette liberté. Tu vois, c'est une liberté, là tu l'as pleinement cette liberté, bam, tu balances le truc, et tu te dis maintenant je balance la sauce. Alors maintenant que je t'ai dit ça, comment tu peux le faire? Moi je pense quand même que il faut que tu rentres dans un temps d'exploration de ce que tu peux faire, de ce qui va vraiment te plaire. Parce que si je reprends, alors... là je parlais de la course à pied, mais prenons la grande famille du développement personnel. Elle est tellement large, cette famille du développement personnel, que tu peux faire du développement personnel dans plein de trucs. Tu vas te dire je vais faire du dev perso, mais ça veut rien dire en fait de faire du dev perso. Écoute, tu veux faire quoi du dev perso? Pour sentir mieux, pour être plus enjoué, avoir moins de rides, enfin mieux vieillir, arriver à avoir confiance en soi, avoir une meilleure estime de soi, arriver à mieux gérer son temps, mieux ses projets, être un meilleur papa, une meilleure maman, enfin, c'est tellement large ce truc. Mais comment tu le sais en fait? Comment tu le sais? Moi, je vais te dire, quand je regarde les contenus que j'ai abordés, j'en ai abordé plein dans ma vie. Il y a une époque, le sujet principal de mon blog, c'était quand même les anticernes pour hommes. J'en ai vendu plein. Et au bout d'un moment, ça m'a gavé. À un moment donné, j'ai voulu essayer de parler de parfums. Ouais, ben franchement, aller sniffer des parfums, c'était pas mon truc. Les anticernes, ça me faisait rigoler parce que je pouvais en tester plein et tout, je faisais des petites vidéos. Le rasage, tu vois, par exemple, ça m'intéressait pas. J'ai vu à une époque un créateur de contenu qui, lui, avait un problème de cheveux. Et il s'est mis à parler des cheveux. Alors, greffe de cheveux, j'ai fait ça pour mes cheveux, mais j'ai poussé tester mes produits pour les cheveux et tout. C'est devenu la référence dans le domaine. Tu vois, alors j'ai même plus son nom maintenant. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, il en avait marre. D'ailleurs, un jour, il a fini par se raser le crâne parce que, à force que ses cheveux, finalement, ça repoussait pas comme il voulait, il a fini par se raser le crâne. Mais, je veux dire qu'à un moment donné, il a testé, il s'est rendu compte que ce sujet-là était important pour lui, il s'est rendu compte que finalement, il trouvait peut-être pas tant d'informations ça, il s'est rendu compte que quand il en parlait, eh ben, ça lui plaisait d'en parler parce que c'était ce qu'il vivait, qu'il arrivait à aider les gens avec ce qu'il faisait. Et donc, en fait, plutôt que se dire, je vais aller dans tel domaine-là, et peut-être qu'il y ait une opportunité, Il est allé dans l'opportunité. C'est-à-dire qu'il a testé le truc. Il a testé, il a fait des vidéos, il a fait des contenus, il a fait du blog, etc. De même qu'à une époque, je m'étais dit, tiens, je pourrais faire de la mode masculine. Pouah là là, mode masculine, mais ça m'intéressait pas, tu vois. Je me suis mis à... Alors j'ai eu des jeans, j'ai testé des jeans, des chemises, faire trois photos à poser dans la rue, là, et tout, avec un look. Franchement. Ouh là là, mais c'est pas... le truc, vraiment pas pour moi, quoi. Vraiment pas pour moi. J'ai testé. Je me suis, au bout de deux, trois photos, j'ai dit, pouh, ce truc, quel bordel, et tout, et puis ça me plaisait pas. À côté de ça, j'ai des étudiantes qui font carrière avec ça. C'est-à-dire que j'avais une étudiante, à un moment donné, quand elle rentre dans la salle, je la reconnaissais juste parce que je l'avais vue sur Instagram, avec son petit chapeau et tout, quand elle rentre dans la salle, j'ai dit, vous venez d'où? Vous avez fait une pose de vêtements et tout pour essayer? Elle m'a dit, oui, je viens de faire cinq looks, là, dans la rue et tout, avec mon copain, je me changeais dans la rue, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Ça lui plaisait à elle. Donc elle le fait. Elle l'a testé, ça lui plaisait. Et je dois le dire maintenant, elle ne fait plus du tout ça. Elle fait plus du tout dans ce domaine-là. Hein. Vraiment, plus du tout dans ce domaine-là. Mais en fait, elle l'a testé. Elle a vu ce que ça lui plaisait à elle. Elle l'a fait. J'ai testé, ça ne me plaisait pas à moi. J'ai arrêté. Bah, par contre, il y a d'autres trucs qui me plaisaient. Faire des recettes de cuisine, à un moment, ça me plaisait. Puis j'ai commencé à parler de sport. Et puis ça me plaisait. Puis après, de parler de sport d'une autre manière, ça m'a plu. Et puis d'autres manières. Et puis j'ai essayé le podcast. Et oh, le podcast, c'est sympa. Puis j'en ai parlé de telle ou telle manière. Donc. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand tu es entrepreneur, quand tu veux te lancer, tu vois, si aujourd'hui là, tu sais pas quel sujet prendre, ne cherche pas absolument à te dire je dois choisir un sujet et me lancer. Tu vas pas y arriver en faisant ça. Tu peux pas y arriver en faisant ça. Parce qu'en fait, tu as plein de choses dans la tête. Et surtout, surtout en plus, si tu as un profil qui a de l'expérience, qui a vu plein de choses, qui t'intéresse à plein de trucs, tu sais qu'il serait un peu un multipotentiel dans l'âme, un peu, même si tout le monde est pour moi multipotentiel du moment que tu t'ouvres un petit peu à l'esprit de tous les trucs. Bref. Si tu es un peu dans l'esprit, il y a de dire, il y a plein de choses qui m'intéressent, je sais pas comment choisir. Si tu sais, si tu as eu une carrière avec plein de métiers différents, et tu dis, tiens, il y a des trucs qui m'ont plu, j'aimerais bien en reparler, etc. Mais t'en as, tu sais pas trop choisir. Si tu as vu plein de techniques dans tes métiers, tu dis, je pourrais faire ça, ça et ça et tout. Si tu as plein d'envies, plein d'idées, tu ne pourras jamais choisir juste en réfléchissant. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas choisir juste en réfléchissant. Parce que la réflexion, juste en réfléchissant comme ça, ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. Parce que tant que tu n'as pas mis les pieds dans le cambouis, enfin les mains dans le cambouis, les pieds dans le caca, hein, pour dire les trucs, tu ne sais pas si ça va te plaire, si tu peux en parler, si tu as envie de le faire ou pas. Et ça, c'est un truc qui est vraiment super important. Parce que c'est en créant du contenu, c'est en commençant à en parler, que tu vas voir si tu es à l'aise en parler, si ça te plaît, si tu as envie de continuer, si tu veux recommencer, si tu trouves des nouvelles idées. C'est pas en cherchant dans ton coin en disant « Ah, je pense que je pourrais parler de ça ». Non, c'est pas seulement en imaginant que tu vas créer, mais c'est en créant vraiment que tu vas trouver exactement ce qui te fait envie de parler. Et c'est aussi comme ça que tu vas arriver à vibrer, en fait. Que tu vas être vraiment toi. C'est comme ça que tu vas découvrir, en fait, le toi, la liberté d'être toi, la liberté de parler tel que tu as envie de le faire. J'ai envie de te dire, j'ai vu sur Internet, il y a des gens qui font des vidéos sur Excel. Et bah, si ça leur plaît, tant mieux. Moi, c'est pas parce qu'il y a un marché de former les gens à Excel que je vais aller faire de l'Excel. Ça me plairait pas, tu vois. Ça me plairait pas, ce truc-là. Donc, moi, je parle, tu vois, de certains sujets qui me plaisent parce que je me suis rendu compte que parler de course à pied, ça me plaisait. Et puis, je me rends compte que c'est pas de parler de course à pied qui me plaît, en fait. C'est plus de parler de comment, en fait, on devient vraiment soi en courant, en prenant confiance en soi, en osant se lancer dans des projets. C'est pour ça que tu écoutes ce podcast-là maintenant, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, bah tiens, je vais repartir là-dessus et tout. Donc, tu es dans ce truc-là, tu vois, tu es dans cette démarche-là. Si tu es dans cette démarche-là, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je serais toi, je me lancerais dans un challenge, un propre challenge. Lance-toi un petit défi, là, tout de suite. Moi, je te lance le défi, lance-toi le défi. Fixe-toi un défi de publier un certain nombre de contenus. Ne décide pas ce que tu vas faire avant d'avoir fait ces contenus. Tu peux faire un défi 30 jours, 30 contenus. Tu peux faire un défi 10 semaines, 10 contenus. Par exemple, si tu veux faire la vidéo YouTube, ça peut être un peu compliqué de faire une vidéo par jour. Tu peux faire une vidéo par semaine. Si tu veux faire des posts Instagram, tu peux faire un petit post pendant 30 jours et tout. Tu dois pouvoir le faire. Franchement, tu dois pouvoir le faire. Mais bon. Sur Instagram, un contenu par semaine, c'est trop léger. Sur YouTube, un contenu par semaine, t'es pas mal. Tu choisis comme ça un défi, une modalité de défi, et tu vas te dire, bah, je vais voir un petit peu ce que je peux faire comme contenu sur un sujet qui me plaît, ou sur des sujets, ou tester les sujets, de voir ce qui me plaît, etc. De toute façon, personne ne t'attend, personne n'est abonné à tes comptes, donc t'es dans ton domaine et tout. Le truc pour toi, ce n'est pas de dire je veux avoir de la réussite, c'est de faire les choses pour voir ce qui se passe quand tu le fais. Et de te rendre compte que peut-être qu'il y a des sujets, quand tu commences à en parler, quand tu commences à réfléchir dessus, et bien peut-être que tu t'y voyais bien, mais qu'en fait, tu te rends compte que finalement, ça te gonfle vraiment prodigieusement, que t'as pas envie de le faire, que quand tu réfléchis dessus, ça va pas. Et que d'autres sujets, ça coule de source, que c'est tellement facile pour le faire, que c'est vraiment super naturel pour le faire et tout, et que là, bah, tu vas foncer là-dessus. Donc, tu vas vraiment dans cette démarche-là. Tu vas au bout de ton défi, surtout. Je te demande d'aller au bout de ton défi. C'est-à-dire que si tu défies un défi de 10 semaines, tu prends tes 10 semaines, tu fais tes 10 contenus et tu t'offres cette chance. Fais-toi ce cadeau-là, tu vois, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir la liberté ensuite de pouvoir choisir tout ce que tu as et de pouvoir vivre toutes les libertés que tu espères, il faut que tu arrives en fait à trouver un endroit où tu te sens libre de t'exprimer de la manière dont tu veux, sur le format que tu veux, comme tu veux, comme tu veux le faire. Et en fait, je peux te garantir qu'il y a des grosses surprises. Dans tous les gens qui me suivent, dans tous les gens qui écoutent le podcast, dans des gens que j'ai eu en formation, des gens que j'ai eu en coaching, des gens que j'ai eu en discussion, c'est juste dingue le nombre de personnes qui ont changé de sujet, qui ont changé de manière de faire les choses et qui ont découvert qu'en fait, ils étaient super à l'aise dans certains domaines. Et ça arrive en fait, ça leur tombe sur le coin de la figure sans qu'ils s'en rendent compte. Certains vont se reconnaître. Hein. Certains, ils commencent à parler de photos et puis ils arrivent quelques années après en faisant un sujet totalement différent et dans lequel ils s'éclatent, dans lequel ils ont de la réussite, dans lequel ils commencent à avoir des milliers d'abonnés, dans lequel ils ont des partenariats, etc. Ils arrivent à faire des choses, alors que sur le sujet qui leur plaisait le plus au départ, ou en tout cas qui pensaient le plus au départ, eh ben ça marchait pas. Mais peut-être qu'en fait, dans le sujet qu'ils étaient au départ, c'était aussi, tu sais, un peu cette habitude et ce masque, en fait, de dire « Depuis que je suis jeune, je m'intéresse à la photo, j'ai acheté du matériel, je suis un photographe et j'ai fait tellement de trucs en photo que je vais parler de photo et je parle de photographie telle que j'ai appris la photographie, telle que je le fais, j'ai fait des trucs, etc. » Et en fait, eh ben ils n'arrivaient pas à se démarquer. Et à partir du moment, ou alors au bout d'un moment, ça leur plaisait plus. Et à partir du moment où ils sont autorisés à partir d'un autre sujet, d'essayer de parler d'un autre sujet, ils se sont rendus compte que finalement, ils étaient peut-être plus à l'aise, ou qu'ils peuvent faire d'autres choses, qu'ils peuvent le faire différemment, ou que ça leur plaisait, parce qu'aussi peut-être qu'ils découvraient des choses, parce que peut-être qu'ils progressaient dans d'autres domaines, etc. Et que tout d'un coup, en fait, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent à eux. Mais ils n'ont pu le savoir qu'en le testant, non pas en l'imaginant, mais en le testant. Donc, tu as compris ta mission des jours qui viennent, tu te prends en fait un défi de publier un certain nombre de contenus, soit, je te le dis, soit c'est sur explorer une thématique, les manières dont tu peux parler d'une thématique, soit tu pars en multi-thématique. Hein. Je connais des gens qui sont partis en multi-thématique. Ils ont commencé à faire du sport, après ils ont fait de l'Instagram, après ils ont fait du business en ligne, après ils ont parlé de domotique, après ils ont parlé de photos, etc. Et puis ils se sont rendus compte que bah, finalement, ce qui leur plaisait le plus, c'était de parler de tel ou tel sujet. Et ils sont allés à fond dans ce sujet-là parce qu'ils ont testé, parce qu'ils se sont rendus compte que dans ce sujet-là, bah, ils avaient du vécu, de l'expérience, qu'ils testaient des choses, qu'il y a des choses qui marchaient bien pour eux, que quand ils en parlaient, ils étaient à l'aise, et que finalement, bah, c'est comme ça qu'ils ont pu lancer la suite, et être tellement à l'aise avec ça, que bah, finalement, ils avaient la liberté d'être vraiment eux-mêmes. Et la liberté d'être vraiment eux-mêmes, c'est-à-dire de travailler comme ils veulent, quand ils le veulent, d'où ils le veulent, sur le sujet qu'ils veulent, et avec la manière qu'ils veulent de le faire, c'est-à-dire pas forcément la manière que font les autres, mais à leur manière à eux de traiter le sujet. Et là, tu as la plus grande liberté qui s'offre. Et cette liberté, elle devient grisante, en fait. Elle devient grisante. C'est-à-dire que, je te garantis, hein, vraiment, si tu l'as pas connue, cette liberté, je te garantis qu'elle est grisante. Parce que, imagine maintenant, là, peut-être tu m'es en train de m'écouter en allant au bureau. Et tu es dans ta voiture, tu vois, tu es en train d'écouter, t'es en train d'arriver au bureau. Et là, toute la journée, tu vas avoir des règles d'entreprise, les règles à quelle heure il faut arriver, il faut badger, pas badger, il faut travailler de telle manière, il faut avoir l'ordinateur, il faut mettre le mot de passe, il faut faire ci, il faut faire ça, il y a une réunion à telle heure, il faut faire ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tout est décidé par plein de gens et tout, toi t'as un petit rouage dans une grosse machine, etc. Et donc t'es en train de paraître en fait, de dire que ça t'intéresse, qu'il faut absolument que ça t'intéresse, t'es obligé de faire croire que t'as des idées sur la prochaine réunion, donc t'es dans ton masque en fait du super salarié, tu vois, du super salarié génial, et qui doit être vraiment un super salarié pour avoir sa promotion à la fin de l'année là qui arrive dans pas longtemps et qui doit avoir aussi des petits bonus et tout pour dire tiens ça va arrondir à la fin de l'année, des petits cadeaux, avoir ton 13e mois, avoir des primes de fin d'année, etc. Donc t'es là-dedans, là, t'es dans ce truc là. Eh ben, imagine que maintenant, tout ça, ça pète. Imagine que tout ça, tu n'es plus à le faire. Et que tu, quand tu arrives dans ton prochain bureau dans quelques mois ou quelques années, je sais pas dans combien de temps, on va dire, allez, dans 2 ans, le temps que tout se mette en place, projet 24, eh ben, imagine que tu n'as plus à te préoccuper de ce truc-là, de dire à qui je dois ressembler dans les autres, qu'est-ce que je dois faire absolument pour me conforter à ça et tout, mais qu'est-ce que je peux vraiment faire moi pour avancer tel que moi j'ai envie de le faire sur le sujet qui me plaît, de la manière dont je veux faire et à la manière dont je pense que je vais aider le plus de monde possible. Ça te ferait pas rêver ce truc-là, cette liberté-là? Ça serait pas ça la vraie liberté, celle qui te ferait vraiment rêver? Eh ben, elle est grisante. Mais une fois que tu y as goûté, un petit peu, tu vois, tu tires un truc où finalement toutes les autres libertés qu'on nous vend, la liberté de sortir un peu plus tôt, la liberté de t'organiser pour dire aujourd'hui j'ai une journée de télétravail, la liberté du vendredi de dire bah aujourd'hui t'as pas obligé de mettre un costume ou une cravate, tu vois, toutes ces libertés qu'on t'offre dans ton travail ne sont pas des vraies libertés en fait, c'est de la liberté contrôlée, mais la vraie liberté c'est celle que je viens de te donner. Si t'as envie de goûter à cette liberté, moi je te dis, hein, il faut que tu essayes. Voilà, je t'ai donné les plans pour essayer. J'ai mis très longtemps à découvrir cette liberté-là parce que pendant très longtemps, en fait, à chaque fois que je voulais lancer quelque chose, eh ben finalement, je retombais toujours dans « je dois le faire de telle ou telle personne ». Il y a telle personne qui réussit, je dois faire ça et j'essaie de lui ressembler. Telle personne fait ça, je dois essayer de lui ressembler. Les coachs en nutrition, ils font ça, mais je dois faire comme eux. Lui fait ça, je dois faire absolument comme eux. Et à un moment donné, j'ai fini par comprendre, mais j'ai compris que très récemment, et c'est pour ça que je t'en parle maintenant, parce que moi j'ai compris au bout de tellement d'années, ça fait 12-13 ans, tu vois, que j'essaie de chercher le truc, j'ai mis tellement de temps à le comprendre que je voudrais que t'aies un raccourci en fait, que t'aies vraiment un raccourci, et que, tu vois, tu t'offres cette liberté, en fait, vraiment cette liberté, de choisir, en fait, et d'avoir le choix, et d'essayer ce que tu peux faire. Voilà, c'est tout le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Donc c'était pas vraiment un carnet de bord, hein, mais tout ça pour te dire que bah cette genre de réflexion là, tu vois, des fois ça vient comme ça et que tu te rends compte en fait que il y a des choses auxquelles tu t'attends pas et l'entrepreneuriat c'est ça et que bah peut-être que ça te paraît pas possible parce que quand tu es dans un carcan type ça fait 10 15 ans, 20 ans que tu es salarié, que tu as toujours fait ça de telle manière qu'on t'apprend à faire les choses, bah tu as peut-être pas l'impression que tu peux faire les choses différemment, mais si tu t'offres juste un petit peu cette chance-là de découvrir cette liberté, tu vas voir qu'en fait, tu as d'autres choses qui arrivent et c'est pas qu'une question juste de gérer un peu le temps, de gérer un peu le temps, un peu du temps, mais que tu as autre chose et que ce autre chose est beaucoup plus grand. Voilà. Si maintenant, tu as envie de goûter au petit truc et que tu as envie d'un petit coup de main là-dessus, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, hein, pour coaching, formation et tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs !